Le journal, Manon Becker, bonjour.
Bonjour, avec la saison des récoltes, l'été est le moment où il faut être réactif quand on est producteur de fruits. Justement, aujourd'hui, on continue notre série sur les métiers agricoles avec David Scheidegger, qui est producteur de framboises. Il nous ouvre les portes de son exploitation. Les syndicats chevalins du Jura bernois et du Jura vont pouvoir se mesurer les uns aux autres. La semaine du cheval qui précède le marché concours bat son plein à Seignelay-Légier. Et cette année, les organisateurs proposent une nouveauté, la coupe intersyndicat. Pas besoin d'être mécano pour rénover une voiture mythique. Au Val-de-Ruz, un passionné de la trilogie cinématographique Retour vers le futur a retapé presque entièrement seul une DeLorean. Météo aujourd'hui, le temps devrait rester sec, mais sous un ciel occupé de nombreux bancs nuageux. Attention, une bise faible à modérée sur le Seyland et dans les vallons va continuer d'accompagner des températures assez douces pour la saison. L'art de récolter quand on est producteur de fruits, c'est viser le moment parfait. Voici ce qui occupe l'un des agriculteurs qu'on a rencontré dans le cadre de notre série d'été sur les métiers agricoles. David Scheidegger est un agriculteur et producteur de framboises dans le Jura bernois. Il nous accueille sur son exploitation.
Alors, on se trouve à la montagne de Soule. On est ici à 1000 mètres d'altitude. Et puis, c'est un peu quelque chose qui est aussi un peu spécial, une culture comme ça. À cette hauteur.
C'est vrai qu'on n'en voit pas tous les jours. On se dit les petits fruits comme ça, ça serait plutôt en plaine, etc. Vous aviez des doutes au début ?
Alors, on avait des doutes. On avait un conseiller qui nous aidait un peu à mettre ce projet sur pied, que lui pouvait aussi pas nous garantir comment ça veut se passer.
Et du coup, ben, il faut croire que ça s'est bien passé, parce que ça fait combien de temps que vous faites ça ?
Alors, maintenant, ça fait 12 ans qu'on a cette culture, oui. Jusque maintenant, ça s'est bien passé.
On est sous des grandes toiles blanches que vous pouvez tendre. Et ça, c'est contre la pluie.
Ça, c'est contre la pluie, oui.
Les framboises n'aiment pas la pluie ?
Le problème, c'est souvent quand les fruits sont mûrs et puis on a une pluie, on a beaucoup de pertes après. Et puis c'est aussi pour aller livrer qu'on peut toujours livrer. Qu'on n'a pas un trou, qu'on doit dire qu'on ne peut pas livrer à cause de la météo.
Parce que finalement, la pluie, ça pourrait les faire tomber, celles qui sont très mûres.
Oui, ça y tourne très vite. Alors, ce n'est même pas ceux qui sont mûrs, c'est aussi les bons fruits. Si on les met mouillés dans un parquet, ils tournent, ils commencent à pourrir.
D'où votre système d'irrigation qui est directement vers les pots, quoi, ou plus proche de la terre.
Oui, on arrose tout par pipette et puis ça va directement vers les racines, oui, le plus proche possible.
Du coup, là, on est un petit peu... On est en avance un peu sur ces framboises parce qu'elles ne sont pas encore mûres. C'est quoi les critères qui font que vous dites « Ah, maintenant, c'est bon, c'est le moment de les cueillir ».
Le grand défi, c'est nouveau avec la mouche Suzuki.
Pourquoi c'est un défi avec cette mouche ? C'est une question de timing ?
Alors, la mouche, c'est le grand problème qu'elle a. Elle va poser des œufs dans des fruits mûrs. Et puis après, ça donne des larves. Et puis le fruit, il est immangeable.
Vous devez les cueillir avant qu'elles soient trop mûres pour que la mouche s'y intéresse.
Exactement.
David Scheidegger, agriculteur et producteur de framboises sur la montagne de Saule, répondait à Josette Sédou. Un chèque de 12 500 francs à la fondation Digger. Le Rotary Club Les Russies va remettre la somme ce soir à la fondation de déminage à but non lucratif. Le rendez-vous est fixé à 18h30 sur le site de Digger à Tavannes. Le docteur médecin Lucas Seitz a été nommé médecin-chef en rhumatologie et immunologie au centre hospitalier Bienne. Le CHB espère ainsi combler une lacune dans son offre de soins régionale dans le domaine de la rhumatologie. Le spécialiste travaillait jusqu'à maintenant à la clinique universitaire de l'hôpital de Lille à Berne. Les syndicats chevalins du Jura bernois et du Jura vont pouvoir se mesurer les uns aux autres. La semaine du cheval qui précède le marché concours bat son plein à Seignelay-Légier. Et cette année, les organisateurs proposent une nouveauté, la coupe intersyndicat. La compétition se tient ce mercredi dès 17h aux abords de la halle Cantine et regroupe 8 des 11 organisations de la région. Au total, 24 chevaux seront évalués. Pour le membre du comité de la semaine du cheval, la coupe intersyndicat prône le rassemblement et permet de dynamiser la manifestation. Frédéric Erard.
dans le cadre de la semaine du cheval, dans le cadre du comité, on cherche toujours des nouvelles idées pour animer la semaine du cheval. Puis dans cette mission-là, on a décidé d'organiser cette coupe intersyndicat, justement, qui relie les éleveurs entre eux, de tous les syndicats présents, et puis également avec nos amis les chevaux. L'ambition, c'est vraiment amicale. Alors c'est clair qu'une compétition reste une compétition, mais l'idée de base, c'est vraiment que les éleveurs puissent amener leurs meilleurs sujets, représenter leur syndicat pour se faire plaisir et puis surtout pour se retrouver. C'est trois participants par syndicat qui travailleront ensemble pour essayer d'obtenir la coupe.
Est-ce qu'il n'y a pas un risque en mettant une coupe intersyndicat de créer de la rivalité justement entre les syndicats?
Non, alors je pense pas du tout. Je pense qu'une rivalité, il y aura peut-être, mais elle sera toujours bon enfant. Cette année, ça sera peut-être un syndicat, puis l'année prochaine, ça sera un autre syndicat qui l'emportera. Car l'idée, c'est de continuer cette coupe intersyndicat quelques années.
Frédéric Erard répondait à Nicolas Meusy. Deux juges évalueront les critères de race des chevaux alors que le ministre jurassien de l'économie et de la santé Stéphane Teuria inspectera des critères plus généraux comme la présentation. Les résultats seront proclamés aux alentours de 20h30. Justement, le marché concours s'ouvre dans 2 jours et il décuple la motivation de 2 jeunes genevoises. Alicia Traconia, 16 ans, et Aurélie Villiman, 17 ans, se sont lancés le défi de rejoindre Seignelégier à cheval. En compagnie de Craquant et Caramel, deux Hongres-Franche-Montagne, elles ont quitté Genève il y a 11 jours pour entreprendre le voyage de 240 km à travers la Suisse romande. Les deux amies sont actuellement dans le canton de Neuchâtel avant de traverser le Jura bernois et d'arriver au marché concours. Elles ont voulu partir à l'aventure et repousser leurs limites. Alicia Traconia.
En fait, avec Aurélie, on a toujours adoré les randonnées, mais ça fait 2 ans à peu près qu'on fait des plus grandes randonnées et qu'on a commencé à vraiment à partir plus loin et à vouloir aller encore plus loin. Et vu qu'on a deux franches montagnes, et ben on voulait mettre en avant cette race qu'on adore depuis qu'on s'occupe de ces deux chevaux. Puis aussi découvrir la Suisse, découvrir l'agriculture suisse, mais aussi les cantons, les sentiers de randonnée pour les chevaux, de faire partager un peu toutes ces expériences avec la race, la seule et unique race suisse de chevaux, qui sont les Franches-Montagnes.
Et au niveau physique, que ce soit vous, que ce soit vos chevaux, comment ça se déroule jusqu'à là?
On commence à être un peu fatigué, mais ça va, il ne nous reste que 2 jours, alors ça fera l'affaire. Et puis nos chevaux, c'est des entraînés, donc pour eux, c'est pas tant que ça. Après, on a eu quand même quelques blessures. On a eu un cheval qui a eu une infection à cause d'une plaie. Mais c'était rien de plus grave que ça. Donc, on a vraiment eu de la chance sur ce point. Finalement, tout va bien et tout s'est bien passé.
Alicia Traconia était au téléphone de Nicolas Meusy. Les deux jeunes genevoises et leurs 2 chevaux arriveront vendredi soir à Seignelégier pour vivre le début du marché concours. Si vous avez visionné la série de films Retour vers le futur, vous avez peut-être rêvé de monter à bord de la DeLorean de Doc, convertie en machine à voyager dans le temps. Souvenez-vous, dans le film sorti en 1985, Marty McFly remonte le temps pour s'assurer que ses parents tombent amoureux. La trilogie cinématographique a certainement marqué quelques générations. Le vaudrusien Cédric Blanc en était passionné lorsqu'il était adolescent. Il a toujours rêvé de posséder lui-même une DeLorean. Le rêve est devenu réalité tout récemment. Dans son garage, sans aucune connaissance de base en mécanique, il a entièrement retapé une DeLorean achetée d'occasion. Il faut dire que bricoler de vieux objets est pour lui une vieille habitude. Cédric Blanc.
Déjà, quand j'étais petit, au grand désespoir de mes parents, je démontais la télévision, je démontais le magnétoscope pour voir comment c'était fait. Il n'y avait pas les vidéos, donc je ne savais pas forcément comment les remonter, ce qui posait problème. Sur Internet, on trouve énormément de forums sur tout. Comme tout le monde le sait, mais on trouve beaucoup de forums, surtout anglophones, par rapport à cette voiture, où il y a énormément de passionnés, on trouve énormément de conseils, de ce qu'ils appellent des how-to, donc comment faire ci, comment faire ça, comment changer telle pièce, comment changer la climatisation, comment, etc., etc. Des vidéos, forcément, des vidéos YouTube, là aussi, il y a pas mal de chaînes YouTube, de mécaniques, de techniques qui montrent, qui indiquent, qui expliquent comment faire ci, comment faire ça, on voit vraiment pas à pas, donc il faut être bricoleur à la base. Ça, c'est, à mon avis, c'est indispensable, il faut être quand même habile de ses mains. Est-ce qu'il faut être mécanicien, est-ce qu'il faut être ingénieur? Non, je pense pas. Je pense que c'est faisable. Mais il faut avoir envie et il faut être bricoleur.
L'arc jurassien est suspendu aux annonces de la Confédération dans l'espoir que Donald Trump rétropédale. Avec des droits de douane de 39%, la région est plus que jamais concernée par la décision du président américain de taxer lourdement les produits suisses importés aux États-Unis. Les impacts pour l'arc jurassien, dont le tissu économique est fortement porté vers l'exportation, seraient conséquents. Olivier Crevoisier, professeur d'économie territoriale à l'Université de Neuchâtel.
La région de l'arc jurassien souffrirait particulièrement de ces droits de douane. Alors le mécanisme de base, mais on le comprend très facilement, hein, ça signifie que les produits de la région seraient vendus plus chers aux États-Unis, ou alors qu'il faudrait comprimer les marges, mais d'une manière ou d'une autre, tout ceci va diminuer les quantités vendues aux États-Unis, ceci va diminuer les revenus des entreprises, ça va donc entraîner probablement du chômage, ça va donc entraîner des baisses de profits. Et donc tout cela est extrêmement négatif, puisque ça veut dire moins de pouvoir d'achat dans la région, moins de pouvoir d'investissement, moins de revenus évidemment pour les collectivités publiques également.
Autre question qui préoccupe, faut-il s'attendre à ce que des entreprises quittent la région avec des droits de douane de 39%? On retrouve Olivier Crevoisier.
C'est difficile à dire. Là, vraiment, on entre dans des cas spécifiques. Vous savez que les différents secteurs industriels sont très différents les uns des autres. On parle beaucoup de la pharma, par exemple. Alors, la pharma, c'est une activité qui est très dépendante, finalement, des cadres institutionnels, des réglementations, des systèmes d'assurance, etc., etc. Voilà. Et c'est un secteur dans lequel on a souvent une, deux, trois molécules pour telle ou telle maladie spécifique. Donc, on est dans un système très particulier. Si vous allez dans des marchés plus traditionnels, comme l'horlogerie, ou alors dans des marchés d'investissement, comme la machine-outil ou la microélectronique, qui concerne également très fortement la région, alors là, les choses sont encore différentes. Hein. On voit que pour les produits horlogers, jusqu'à présent, eh bien, l'horlogerie suisse a pu, dans une certaine mesure, jouer avec l'idée de la distinction sociale, du prix élevé, du produit de luxe. Mais il est évident qu'à 40%, c'est extrêmement difficile à digérer. On ne peut pas continuellement aller vers des prix élevés. C'est pas possible. Et dans le domaine des biens d'investissement, bien sûr, ce qui se pose comme question, c'est aussi la concurrence avec avec d'autres pays comme l'Allemagne, le Japon, dans une certaine mesure l'Italie. Et là, on a évidemment des distorsions de concurrence qui sont importantes parce que si l'Union européenne a 15% et que nous avons 40%, ça fait quand même une grosse différence.
Olivier Crevoisier, professeur d'économie territoriale à l'Université de Neuchâtel, était au téléphone de Jean-Paul Picci. Karine Keller-Souter sera reçue par le secrétaire d'État américain Marco Rubio cet après-midi à Washington. Aucun rendez-vous n'est en revanche prévu pour l'instant avec le président Donald Trump. La présidente de la Confédération, accompagnée du ministre de l'Économie Guy Parmelin, espère trouver un accord et renégocier à la baisse ses droits de douane. Où est-ce que les parlementaires fédéraux partent en vacances et comment choisissent-ils leur destination? Cette semaine, nos correspondants à Berne vous proposent de partir en voyage avec 5 élus fédéraux. Le Neuchâtelois Fabien Fiva siège au Conseil des États depuis le mois de juin. Cet été, il a décidé de faire du camping en Suisse et en France. Mais le sénateur vert n'a pas vraiment de critères pour choisir ses lieux de vacances. Fabien Fiva.
Faut que ce soit pas trop loin, faut que ça plaise mes enfants et à moi. Enfin, j'ai demandé, c'est une discussion ensemble qu'on a de savoir où on va, pourquoi, quelles sont leurs envies, quelles sont les miennes. Puis après, on fait un programme qui est, disons, vivable pour nous trois. De temps en temps, ils disent « Ah, mais on aimerait bien faire ça !» Puis on regarde si c'est possible, comment, etc. J'ai tendance comme ça à beaucoup regarder avec mes enfants quelles sont leurs envies. Des fois, ils ont des rêves, et puis des fois, c'est pas possible, puis des fois, c'est possible. Et puis je crois que le principal objectif des vacances comme ça à trois, c'est qu'eux soient heureux en rentrant.
Des propos recueillis par Marie Vuillemier. Fabien Fiva est aussi ouvert à l'idée de voyager loin, mais il prévoit alors de passer plus de temps sur place. Prison avec sursis pour un Suisse à Malte. La justice maltaise a condamné ce lundi un Suisse de 59 ans à 2 ans de prison avec sursis pour harcèlement sexuel sur une femme de ménage. L'homme, présenté comme un homme politique, a plaidé coupable. L'identité de l'accusé n'a pas été révélée, a écrit le portail blic.ch sur la base d'informations de médias locaux. Dans l'actualité internationale, c'était il y a 80 ans, jour pour jour, Hiroshima a été pulvérisé par une bombe atomique américaine. Ce matin, une cérémonie était organisée dans la ville japonaise en présence de délégués d'une centaine de pays, dont la Suisse. Olivier Zano.
6 août 1945, tôt le matin, l'alerte aérienne est déclenchée à Hiroshima. Un avion isolé est repéré, un B-29 d'observation météorologique. Pas de quoi affoler la population dans cette ville peu bombardée pendant la guerre. L'alerte est levée à 7h30, mais 45 minutes plus tard, un autre B-29 américain, Enola Gay, largue une bombe atomique à une altitude de 9000 mètres. À 8h16, l'engin explose. ⁇ 75 000 personnes succombent immédiatement. Le bilan grimpera à 140 000 morts dans les semaines qui suivent. Le monde découvre l'horreur de la bombe atomique. Ce matin, lors de la cérémonie commémorative et dans un contexte géopolitique troublé, le maire d'Hiroshima a exhorté les dirigeants des grandes puissances à renoncer à ces armes destructrices. Un monde sans armes nucléaires, c'est l'effort à fournir et le Japon veut en prendre la tête. C'est son rôle, a insisté son premier ministre Shigeru Ishiba. Un objectif qui peut paraître compliqué. Des états nucléaires majeurs tels que la Russie, la Chine et le Pakistan ont d'ailleurs brillé par leur absence ce matin. L'ambassadeur des États-Unis au Japon, George Glass, lui, était présent. Les survivants d'Hiroshima et de Nagasaki, appelés Hibakusha, eux aussi ont demandé instamment aux États d'éliminer les armes nucléaires. Ils sont encore près de 100 000 en vie, avec un âge moyen de 86 ans.
Ce samedi, une nouvelle cérémonie aura lieu à Nagasaki, là où la deuxième bombe atomique américaine a été larguée le 9 août 1945. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre écoute et bon appétit.